Bonjour Louise Goupil.
Bonjour.
Vous avez été successivement, Louise Goupil, professeure de français au secondaire, pédagogue au ministère de l'Éducation, chargée de projet au Musée de la civilisation de Québec. C'est de Québec, hein? Mm. Oui, parce qu'il y en a un à Ottawa. Et retraitée...
Il y en avait un. Il a changé de nom.
Retraitée, vous écrivez et avez publié il y a déjà un moment « Parcelles de vie ». Est-ce qu'il fallait attendre la retraite pour vous mettre à écrire?
Un peu, oui, dans ce sens que pendant le travail, j'étais quand même fort occupée avec le travail que j'avais. Donc, ça ne me permettait pas beaucoup d'écrire. Mais ce que j'écris à la retraite provient de choses que j'ai écrites aussi au cours de ma vie. Il y a toujours des parties qui ont été déjà écrites.
Mais qui n'étaient pas publiées nécessairement?
Qui n'étaient pas publiées puisque j'avais pas le temps de terminer des projets, mais j'ai toujours écrit.
De l'enseignement du français au ministère, au Musée de la civilisation, c'est la pédagogue qui est sollicitée.
Oui.
Vous avez besoin d'apprendre quelque chose aux gens.
Oui, c'est ça. À partir du premier métier, donc oui. Enseigner à des jeunes secondaires. Ensuite, c'est travailler au niveau de la pédagogie, au niveau du travail pour les enseignants. Et ensuite, c'est pour tout le monde au Musée de la civilisation.
Est-ce que vous avez gardé ce besoin d'apprendre des choses aux gens dans votre écriture de retraité?
Je dirais un peu moins. Là, c'est beaucoup plus de l'expression personnelle. J'ai beaucoup écrit pour mon travail, aux différents endroits d'ailleurs, mais c'était toujours de l'écriture en fonction du travail, alors que là, à la retraite, c'est plus de l'expression personnelle.
Il y a très très longtemps, je dirais presque dans une autre vie, ça devait être de votre période ministère, là, vous avez participé à une étude sur la littérature au secondaire.
Oui, en fait, c'est un projet qui a duré 4 ans, qui était assez imposant. Il y avait une partie recension de livres de littérature pour les jeunes du secondaire, donc de secondaire 1 à secondaire 5, avec des codes de qualité, des codes pour les âges. Et avec cette recension, il y avait aussi des projets pédagogiques qu'on soumettait aux enseignants. Plusieurs de ces projets ont d'ailleurs été menés avec des enseignants. À un moment donné, il y avait 75 enseignants qui participaient à ce projet.
Est-ce que vous avez perçu à l'époque et dans les années qui ont suivi un impact de ces recommandations-là au niveau de la lecture, de l'apprentissage de la lecture ou de l'intérêt pour la lecture au secondaire?
J'avoue que je ne sais pas exactement ce qui... je sais que ça a été distribué dans les écoles, que les enseignants, entre autres les enseignants qui avaient participé d'une façon ou de l'autre au projet, ont tous reçu ces documents, que tous les enseignants, d'ailleurs, du secondaire. Et je sais aussi qu'il y a eu par la suite une autre recension, ensuite des mises à jour qui ont été faites, entre autres avec la personne avec qui j'ai travaillé, Michel Provost, pour ce projet-là, qui, elle, a continué aussi de faire des mises à jour et des recensions par rapport à la littérature jeunesse en général.
Vous avez dû être intéressé, si ma mémoire est bonne, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans au maximum, c'est revenu sur, dans l'actualité, l'histoire de faire des listes d'œuvres.
Oui.
Et ça a éveillé un tollé absolument épouvantable que c'était brimé, enfin...
Oui, j'ai suivi ça, bien sûr, et je dois dire que à chaque fois qu'il y a eu ce genre de proposition, il y a toujours eu
cette réaction, oui.
C'est ça.
Avec votre conjoint, vous avez fondé une maison d'édition.
Oui.
J.P. Lou. Le J.P. étant Jean-Pierre et Lou étant...
Exactement.
Louise. Oui. Dans quel but vous avez eu besoin de fonder votre propre maison d'édition?
Je dirais que le but premier, c'était de nous publier, mon conjoint et moi. à l'âge qu'on avait, je me disais que ce serait probablement un peu long d'attendre que les manuscrits soient acceptés avec le nombre de livres incroyables qui se publient à chaque année. Donc, c'est d'abord en fonction de ça.
Parce
Un projet de retraite, parce que j'avais l'intention d'écrire. Mon conjoint écrivait aussi. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, actuellement, c'est mon troisième livre et mon conjoint a publié un livre aussi.
Il y a à l'intérieur de votre maison d'édition une collection qui s'appelle « Mémoire fictive ». Je vous avoue que ça m'a un peu embêté comme expression
oui.
que la mémoire puisse être fictive. Quel est l'intérêt d'inventer la mémoire?
Je dirais que... C'est quelque chose qui m'a toujours plu, à la fois dans les lectures, tout ça. Une sorte de mélange entre la fiction et la réalité. Et je dois dire que ça apporte beaucoup de liberté à l'écrivaine que je suis, parce que à partir d'un souvenir réel, Je brode autour, je me mets dans la peau d'un autre, etc. Donc, c'est vraiment à partir d'un fait réel ou d'une réalité, je brode autour et ça me donne énormément de liberté. J'adore cette façon de faire.
J'aimerais ça que vous me précisiez le fait réel en question. Est-ce que c'est un fait réel vécu, un fait réel lu quelque part, noté, observé ou complètement inventé?
Il y a de tout ça. Souvent, c'est à partir d'un fait ou d'un souvenir réel. Souvent, ça va être des conversations avec des amis ou des gens ou des lectures ou encore complètement dans l'imaginaire.
Complètement dans l'imaginaire. Se peut-il qu'on fasse référence supposément un souvenir, mais qu'on l'a inventé. On ne l'a jamais vu nulle part ailleurs. C'est jamais arrivé à personne, mais on l'invente.
Oui, c'est possible, bien sûr. Oui, absolument.
Vous devez voir dans mon regard un certain scepticisme.
Oui, oui, je le comprends.
On dit toujours que la réalité dépasse la fiction. Donc, on a beau l'inventer, il y aura toujours pire ou mieux dans le réel.
Oui, et c'est pour ça que j'ai mis en exergue au livre, la mémoire est intrinsèquement fabulatrice parce qu'on peut être plusieurs à avoir vécu un même événement, mais cet événement-là est perçu et vécu tout à fait différemment.
C'est tellement le cas dans les familles qui n'ont pas eu les mêmes parents.
Absolument, absolument.
Ouais. Le dernier ouvrage pour lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui, Louise Goupil, ça s'intitule « Parcelle de vie ».
Oui.
Parcelle au pluriel, et de vie au pluriel.
Aussi, oui.
Alors, ce qui veut dire que vous avez puisé à plusieurs vies. Ils ne sont pas nécessairement vos vies à vous.
Non, c'est ça.
Vous êtes allé puiser ailleurs.
Aussi, oui.
Vous vous êtes amusé beaucoup dans l'écriture à utiliser le narrateur, si on peut parler du narrateur « je », qui peut nous donner l'impression que vous parlez de vous. Et il y a le narrateur on ou il qui est quelqu'un d'autre. Mais parfois, dans le il, il y a vous, puis parfois dans le je, il y a quelqu'un d'autre.
Tout à fait.
C'est un peu tannant.
Oui,
à démêler.
Oui, et je sais que plusieurs qui ont lu le livre m'ont fait la remarque qu'ils essayaient de démêler justement le vrai du faux, etc. C'est voulu, c'est entièrement voulu. Et comme je vous dis, c'est la liberté totale que ça me donne.
Oui.
Oui.
Acceptez-vous qu'on tente de démêler un peu des choses, certaines choses?
Plus ou moins.
Plus ou moins.
Je ne veux pas complètement, je ne veux pas nécessairement vous dire, bon, ceci c'est vrai, ça c'est pas vrai, etc. Non, vraiment pas.
Mais ça sera quand même le sujet de notre entretien, parce que ça m'intéresse. Je vois votre livre un peu comme un tricot qui aurait été fait avec 3-4 laines.
Oui.
Puis je tire sur une laine, puis il y a une partie du tricot qui se défait, mais peut-être pas tout. Et je n'ai pas envie de défaire le tricot non plus. Il y a un fil, il y a une laine qui parcourt cet ouvrage-là, qui est l'histoire d'une petite fille. Mm-hmm. 5 ans, 8 ans, 11 ans et, ouais. et plus, et plus vieille. Et par conséquent, à travers les souvenirs de cette petite fille-là, il y a les souvenirs de sa propre famille, où on entre en contact avec sa famille. Est-ce que là, on est plus dans vos souvenirs personnels?
Oui, il y a beaucoup de souvenirs personnels dans ces courts récits qui traitent de l'enfance plus particulièrement, c'est vrai. Mais les personnes qui gravitent autour de cette petite fille sont parfois diverses, là. Elles ne sont pas...
C'est pas toujours le même bloc familial.
Non.
Vous avez, ou peut-être le faites-vous encore, écrit un journal, je veux dire quasiment quotidien, mais disons un journal personnel.
Oui, c'est ça.
Vous avez commencé à l'adolescence, c'est...
Oui, autour de 13 ans environ.
Et vous écrivez toujours?
J'écris moins un journal personnel, disons depuis, quelques années, lorsqu'il y a quelque chose qui veut s'exprimer, j'écris, quand même, toujours.
Qu'est-ce qui vous incitait à le faire à 13 ans?
Personnellement, là, pour moi, je crois que ça a été une soupape importante. Il y a d'ailleurs un récit qui s'appelle « Le journal intime » et dans lequel je fais l'éloge un peu de ce moyen d'expression, d'expression personnelle qui, finalement, amène à s'interroger sur soi et à trouver aussi des réponses, parfois du réconfort. Je trouve que c'est une façon incroyable de pouvoir passer à travers bien des choses avec ce compagnon-là, comme je l'appelle.
À partir de ce que je comprends, ce n'était pas un journal factuel. Aujourd'hui, j'ai fait telle chose, je suis allé magasiner, je me suis acheté tel produit ou tel... C'était davantage de la réflexion.
C'est-à-dire, ça dépend des moments. Il y a eu des faits, il y a eu des choses factuelles. Comme plusieurs adolescentes, je mettais les spectacles que j'étais allée voir, des choses comme ça. Bien sûr, il y avait tout ça aussi. Mais je dirais que ce que je retiens de l'importance de ce journal, c'est toute la réflexion qui m'amenait à faire. Toute l'expression des sentiments complexes, des questionnements aussi qu'on peut avoir à l'adolescence et même après, longtemps après.
Quand vous retournez à ce journal-là, je ne sais pas à quel moment, si annuellement vous refaisiez une lecture ou si ça a pris des années avant d'y retourner, supposons qu'à l'âge adulte, tout à coup, vous retournez aux journaux de l'adolescence de 13, 14 et de 15 ans. Quel regard vous avez sur ce qui était écrit là, sur l'adolescente qui écrivait?
Je dirais que c'est un regard parfois étonné, là. Je l'ai fait, entre autres, à certains moments, au niveau de la grande adolescence, je dirais, comme à 18 ans, par exemple. Et ce que j'écrivais là, beaucoup... Enfin... Une bonne partie de ce que j'écrivais là, c'était déjà, c'est encore, si on veut, vrai. C'est encore là.
Au moment où vous l'écriviez, vous ne le pressentiez pas, mais aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il y avait là,
oui,
en germe, des choses qui se sont réalisées,
oui,
par la suite.
Oui, oui.
Presque à votre insu, là.
Pas nécessairement à mon insu, mais par exemple, il y avait des choses que je ne voulais pas. Il y avait des choses que je voulais. Alors, ce qui était dit à ce moment, ce qui était écrit à ce moment-là. Il y a une bonne partie que je pourrais écrire, ou en tout cas qui a été réalisée et que je pourrais encore écrire.
Est-ce que parfois ça vous a donné l'idée de détruire ces journaux-là, de crainte que d'autres y mettent la main ou l'œil?
Oui, oui, c'est sûr que ça... Surtout au début, là, quand j'ai commencé à écrire ces choses-là, j'avais très, très peur. Mais par la suite, disons qu'ils m'ont suivi dans les déménagements et tout. Et non, maintenant, c'est pas...
C'est pas une œuvre publique, mais est-ce que c'est quelque chose que ça vous fait rien de laisser d'autres venir consulter,
disons? Non. Ça demeure très, très personnel. Et
ça n'ira pas en héritage à vos enfants?
Ça n'ira pas en héritage à mes enfants, je ne pense pas. L'héritage, c'est plutôt les livres que j'écris, là. Mais,
vous n'avez plus de contrôle sur ça.
Oui, c'est ça. Non, ça n'ira pas en héritage. C'est ça.
Louise Goupil, on parlait de votre journal personnel qui a probablement beaucoup contribué à raviver vos souvenirs pour écrire Parcelles de vie. Vous avez pu aller repuiser dans des souvenirs qui s'étaient passés et les raviver. J'aimerais ça savoir, d'abord, oui ou non?
C'est-à-dire qu'il y a des souvenirs, avant l'âge de 13 ans qui n'étaient pas consignés, non?
Oui, mais dans ceux qui étaient consignés, vous en avez puisé quelques-uns?
Quelques-uns.
Ouais. Peut-être qu'en relisant, ça vous a ramené à des choses que vous aviez oubliées. Vous dites, ah oui, c'est vrai, et là, on commence à l'élaborer. Comment se fait chez l'écrivaine le transfert entre le rappel d'un souvenir qui a été noté selon les faits à l'époque, dont on se souvient depuis et qui a dû profiter de toute l'évolution de la vie et qu'on transpose pour l'écrire? Comment se fait ce cheminement-là? C'était... La part de fiction dont vous parliez au début doit jouer beaucoup à ce moment-là. C'est-à-dire que ce souvenir-là a pu être transféré ou on se permet de le modifier, de le changer.
Oui, tout à fait. Le souvenir tel quel est là...
Il ne ferait pas deux pages dans un livre.
Non, et surtout, il n'y aurait peut-être pas... d'intérêt comme tel, parce que, bon... Mais comme je le dis dans mon livre, sur la quatrième de couverture, c'est l'aspect affectif que j'ai voulu traiter. Alors, dans le souvenir qui soit réel, avec des éléments fictifs, l'aspect affectif, la relation entre les personnages ou la personne et l'objet, les relations sont affectives. Les sentiments, alors ça joue beaucoup autour de ça.
Et vous vous rappelez, en retrouvant un souvenir, vous vous rappelez de cette émotion-là ou si c'est elle que vous inventez?
Parfois, elle est inventée à partir, mais parfois, elle est là, le sentiment ou l'émotion est celle qui a été là, qui a été vraie. Maintenant, tout ce qui est autour ou les conséquences et tout ça peut être complètement fictif.
Oui. Sept enfants, cinq garçons, deux filles, c'est votre unité familiale?
Oui. Oui.
Vous aviez une sœur et cinq frères.
C'est ça.
Oui.
Oui.
Parlez-moi un peu de votre père.
Ah oui? Qu'est-ce que vous voulez savoir de mon père?
Oui. Quel souvenir en gardiez-vous dans ces parcelles de vie? Ben, je le sais parce que je l'ai lu, là, mais...
Oui, ben oui.
C'était l'homme, j'allais dire le modèle du père québécois, rural, fermier, fort travaillant, peu communicatif, silencieux, un peu bourru.
Oui, à une certaine époque. Hein, il a comme...
Il a évolué?
C'est-à-dire qu'il a été malade à un certain moment donné, et donc il avait la difficulté à dormir et tout ça, ce qui fait qu'il est devenu beaucoup plus impatient et tout ça. Mais c'était un homme très doux. Et parfois, lorsque, par exemple, comme il ne dormait pas suffisamment, il était plus impatient et tout ça. Alors, moi qui étais plus petite à l'époque, donc je l'ai connue petite dans ce cadre-là. J'ai connu aussi toute sa tendresse, mais je le voyais souvent exploser dans des mouvements d'impatience. Et cela, ça m'atteignait beaucoup.
Oui.
Et on disait tantôt, les mêmes souvenirs, selon les personnes dans une famille, peuvent être très divers. Les plus vieux l'ont connu...
sous un autre jour.
Oui, c'est ça. Mais je l'ai beaucoup retrouvé, mon père, plus vieille.
Oui, ouais. Presque en aidant naturel.
Non.
Vous l'avez accompagné en fin de vie? Vous l'avez accompagné au moment?
Non. Non? Non. Mais je me suis beaucoup rapprochée de lui et je lui ai posé beaucoup de questions.
Et il répondait?
Oui. Il répondait.
Ah, vous avez été chanceuse.
Oui, j'ai eu dans les dernières années de sa vie là, j'ai eu beaucoup de contacts avec lui. Beaucoup, on a parlé beaucoup et il a répondu beaucoup à mes interrogations qui étaient toujours là.
Et votre mère?
Ma mère est décédée avant.
Votre rapport, vous, à cette mère, d'après la petite est très, très, très... C'est une teigne pour sa mère. Excusez l'expression. Mais la petite a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de cette présence maternelle-là. Là. Et on a l'impression que la mère, que ça exaspère à un certain moment, ça exaspère un peu la mère qui voudrait qu'elle lâche un peu ses jupes puis qu'elle prenne un peu l'air.
Oui, un peu. C'est elle-même aussi qui me le disait là, lorsque j'étais un peu plus vieille, comment j'avais été... je la suivais partout. Mais c'est surtout mon père qui m'a donné... ce que j'appelle la clé, c'est-à-dire le fait que c'est ça.
Vous avez eu une explication à ce pourquoi-là?
Oui, c'est ça.
Qu'enfin vous ne rationalisiez pas, mais que finalement ça se manifestait. Si on continue un peu le portrait de la famille, c'est l'aîné, j'ai l'habitude, à qui devait revenir la terre, mais qui s'est fait religieux. Il y avait un des fils qui est entré en communauté.
Oui, mais il est entré très jeune.
Oui, puis on faisait le collège, puis on continuait dans la communauté. Vous aviez qu'une sœur.
Oui.
Et à un moment donné, vous en parlez, la narratrice parle de cette sœur-là comme ayant été une sorte de deuxième mère ou de mère de suppléance. Par rapport aux, je dirais pas aux absences, mais peut-être aux retenues de la mère naturelle?
Oui, il y a une sorte d'hommage
à cette sœur-là.
À cette sœur-là, oui, qui m'a beaucoup aidée, adolescente, entre autres, tout ça.
Parce qu'elle avait déblayé le chemin, elle, avant, là.
Oui.
Ça donnait une chance à la plus jeune.
Aussi. Oui. Ouais.
Mais de ce rapport un peu mère-fille, en vieillissant, c'est devenu des amis ou vous êtes devenu davantage des égales.
Oui, plus complices, plus égales. Oui.
Dans le fameux tricot dont je parlais, il y a une autre laine. Il y a une laine qui fait partie de la famille, disons que c'est une teinte parmi le fil de la famille, c'est le frère que je vais qualifier de paria, de mouton noir, disons, de la famille.
Oui, là-dessus, je me suis basée aussi sur le fait que dans plusieurs familles, il y a souvent le plus rebelle, le plus... c'est ça. Alors, je me suis basée là-dessus aussi.
Le portrait qui est fait de ce frère-là, c'est l'amalgame d'un certain nombre de cas possibles où, effectivement, il a existé parce qu'on le voit... Vous faisiez allusion tout à l'heure aux colères de votre père. Une des premières fois qu'il apparaît, ce frère-là, c'est une colère que le père fait à la mère qui terrorise la petite parce qu'elle ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Mais ce qui m'a intéressé dans le processus, bon, enfin, ce frère-là va avoir toutes sortes d'inconvenances dans la vie, disons, mais la narratrice... C'est peut-être la seule de la famille qui garde, enfin, j'ose dire, qui garde de l'affection pour ce frère-là. Comment vous expliquez la hargne des autres par rapport à l'affection? Elle, c'est un peu pour le sauver du mépris des autres?
Dans le récit, oui, ouais. La personne, la narratrice, dit qu'elle conserve l'amour, bon, tout ça de ce frère-là. Mais là, on est dans le tricotage de toutes sortes de choses.
On est même dans la broderie, là.
Oui.
On est même dans la broderie, mais c'est intéressant quand même que la petite ait un regard différent, un regard autre sur celui-là.
Oui, et peut-être c'est dû à son âge, peut-être qu'elle a été justement tellement, je le dis, je pense à un moment donné, je pensais que cette petite-là a pu être, on l'a protégée, on lui a pas tout dit, etc. Et c'est dans ce sens-là peut-être que... ce qu'elle se dit.
Oui, et il aurait pu avoir une certaine délicatesse ou une certaine affection pour cette petite sœur-là dont elle se souvient, alors que les autres n'ont pas eu le même rapport.
Peut-être, mais là...
Vous n'êtes pas allée jusque-là.
Non, c'est... dans mon imagination, ouais. Je ne suis pas allée jusque-là.
La ferme... Au bout du je ne sais pas quel rang, j'allais dire cinquième rang, mais là, c'est parce que c'est une déviation de télévision. La ferme au bout du rang avec des voisins tout à fait éloignés qui vous isolent, ça géographiquement, vous l'avez vécu.
C'est-à-dire que je n'étais pas dans un rang, là, l'isolement créé par la campagne, oui. Mais je veux dire, c'était pas complètement isolé, oui, là, comme un peu comme on peut voir à la télé des choses. Mais c'était la campagne avec des grandes terres et puis des maisons sur les terres et tout ça. Il y avait des voisins, bien sûr. Oui.
Vous avez aimé ça, le travail de la ferme?
Moi, non. D'ailleurs, je n'ai pas travaillé autant que les autres sur la ferme.
Oui, c'est sûr, c'était l'avantage des plus jeunes. Je suis un plus jeune également. Les autres disent que je n'ai rien connu.
C'est ça.
Oui. Ça m'a amusé, le chapitre que vous faites sur le ramassage des roches.
Oui.
Dans les champs. Et la texture détestée touche à cette sécheresse.
Oui, je suis encore comme ça. Oui.
Comme quelqu'un dirait sur un complètement autre sujet, quelqu'un disait, il faut l'avoir vécu pour pouvoir le raconter des choses du genre.
Oui.
Ça s'invente mal.
C'est ça.
ces histoires-là.
Oui.
Avec le recul, vous faites un portrait dans votre parcelle de vie, dans ces parcelles de vie, vous faites un portrait de cette petite-là qui est assez peu flatteur. Et vous me permettrez, je vais en lire un extrait.
Ouais.
C'est éparpillé un peu partout, mais tout à coup, il y a un paragraphe. Là, tout à...
Oui,
il y avait mis le faquet. Il ne faisait pas bon jouer avec moi. Trop petite, trop pleurnicharde, trop lente, trop malhabile, trop gauche, trop empêtrée, surtout démesurément sérieuse et peureuse. Handicapée du jeu car il me manquait l'essentiel, le commerce joyeux avec l'autre et le sens du jeu. C'est vrai?
Je pense que oui. En bonne partie. Ça
ne
veut pas dire que j'ai jamais joué.
Oh, non, je comprends
mais
bien.
Mais en bonne partie, oui. Oui, à cette époque-là.
Oui.
Oui.
vous êtes-vous expliqué pourquoi pleurnicharde, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi peureuse, pourquoi... Vous êtes-vous expliqué ça ou si un jour vous avez décidé que, bon, c'est fini ces histoires-là, puis je passe à autre chose?
Ben, je pense que j'ai eu quand même suffisamment d'explications. Et je me suis totalement réconciliée avec, avec cette petite.
Louise Goupil, auteur de Parcelles de vie, le portrait qui est fait de la petite fille de 5-8 bon, qui grandit. Juste avant la pause, j'ai cité un passage où elle décrit ce qu'elle était jeune et c'est pas un portrait qui est particulièrement flatteur. On apprend dans l'ensemble de l'ouvrage que cette personne-là, cette petite fille, allée jusqu'à l'adulte, est très solitaire. Et il y a toutes sortes de motifs pour... on parlait de l'éloignement, peut-être, de la ferme, les grandes terres, l'éloignement du voisinage, peut-être l'éloignement de la famille. On parle de temps en temps des rencontres avec cousins-cousines, mais c'est pas le fait de tous les jours. Elle cherche beaucoup à se faire remarquer. Et même, un des premiers récits, elle écrit, elle fait des lettres, elle apprend son orthographe.
L'alphabet,
son alphabet et sa graphie. Et sa préoccupation, c'est que sa mère trouve des lettres belles. Et non pas de bien les faire, c'est de savoir que sa mère les trouve belles. Un chapitre un peu plus loin, elle va ramasser des fraises des champs. Chose ardue, parce que c'est pas l'abondance, mais... C'est pour son père, parce que le père aura le privilège, lui, de choisir le premier à la table. Il sera servi le premier, toujours. Et elle voudrait que son père la remercie d'avoir fait ce geste-là, alors qu'il mange les fraises et il n'y a pas un mot. Elle a beaucoup besoin du regard. Elle existe dans le regard de l'autre.
Oui, effectivement. Elle a besoin d'être vue.
Et pourtant, elle fait tout pour être passée presque inaperçue. C'est une ombre dans la maison. C'est ambigu, ce personnage-là, qui a besoin que tous ses gestes soient reconnus et qu'ils ne le sont pas. Non? Donc, elle en souffre d'une certaine façon. Puis, c'est comme ça que se déroule sa vie de solitude.
Peut-être, mais je veux dire, à certains moments, cet enfant a besoin d'être vu, et par son père, et par sa mère, et tout ça, comme à peu près tous les enfants aussi, là, je pense bien. Mais à d'autres moments, y a plus qu'une petite fille là-dedans. Là. À certains moments, une autre petite fille peut avoir aussi besoin d'exprimer... quelque chose de plus fort qui va la faire apparaître. Mais c'est, comment dire, il y a quelques petites filles là-dedans.
OK. Parmi ces petites filles-là, il y a un point commun, disons, qui est cet élément de solitude.
Oui,
cette souffrance de ne peut-être pas être reconnue comme on voudrait l'être par le regard de l'autre. Et cette joie profonde de se retrouver seule avec un ou l'autre. Quand elle se retrouve seule avec son père au champ, c'est un bonheur d'être seule avec lui, alors qu'il ne se passe pas tant de choses favorables que ça. Non? Elle est une des petites filles. La petite fille, elle est tout à fait ravie d'être invitée par son frère à aller pêcher. Ça va mal tourner, mais peu importe, elle est toute seule avec... La petite fille colle sa mère en permanence. Donc, elle a besoin de présence, puis en même temps, elle a besoin de solitude.
Oui, c'est peut-être pas tout à fait toujours la même, mais en fait, elle a besoin d'être vue, comme je disais. Et lorsqu'elle elle est seule avec la personne, elle est forcément davantage vue
oui.
qu'à travers, on sait ce qui se passe dans les grandes familles,
etc. Elle se perd dans le reste de la famille.
Voilà.
Devenue jeune adulte, et ça, on l'a tous à peu près vécu, ceux du même âge, c'est la chanson de Françoise Hardy qui nous émeut le plus, tous les garçons et
oui.
les filles de mon âge.
Oui.
On a l'air d'être seul à qui ça n'arrive pas. C'était la chanson de prédilection à l'adolescence de cette fille-là. Un chapitre que j'ai trouvé intéressant aussi, qui est celui que la petite rêve ou imagine, s'imagine peut-être qu'elle est morte.
Oui.
Et qu'on vient, on vient au salon funéraire et que là, elle entend tout ce qu'on dit de bien de elle, qu'on lui dit pas dans la vie en général, tout ce qu'elle aimerait entendre, mais qu'on dit pas. Au salon funéraire, on le dirait. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce désir d'enfant, mais il y a quelque chose aussi de dérisoire de ce qu'on fait au-dessus d'une tombe ou au-dessus d'une urne dans un salon funéraire. Parce qu'il y a donc des belles choses à dire ces jours-là.
Oui, c'est vrai. Mais... par rapport à ça, j'ai lu, je crois, en tout cas quelque part, que effectivement ça arrive. Plusieurs enfants font ça à un moment ou l'autre. Et dans le cas qui est décrit là, c'est comme un réconfort. C'est comme se prouver que finalement on l'aime bien.
Ouais. Ouais. T'as quelqu'un dans l'univers dans lequel on est. Ça se répercutait, ce besoin de solitude ou cette difficulté de prendre sa place à la maison se répercute à l'école?
Oui, je parle entre autres de timidité, ce qui n'est pas non plus, c'est quelque chose de très courant aussi. Alors, je parle de cette timidité-là, oui.
Là, je tire sur un fil qui est plus vous, là, parce que vous l'avez fait dans votre carrière. Le théâtre a été important dans votre vie.
Oui, ça a été une révélation.
Ça a été une révélation.
Oui.
Est-ce que la révélation du polyacte du récit, contacté le théâtre classique à travers polyacte?
C'est effectivement la première pièce que j'ai vue. Oui.
C'était une tournée, un théâtre de tournée à ce
moment-là?
Non,
pas du tout, pas du tout. C'était dans un séminaire de garçons, je ne sais plus trop où, mais c'était uniquement des garçons.
Où les garçons jouaient les rôles.
Tous les rôles.
Ouais.
Et moi, je ne sais pas exactement dans quel contexte, mais je sais que c'était à l'école et qu'on était allés voir ça.
J'ai étudié au Collège Saint-Anne de Boccatière et c'était... C'était ça,
ça
se passait comme ça. J'ai vu de grands classiques joués par des garçons Agrippine, joués par des garçons.
Oui,
tout à fait. La petite, encore une fois, je pense arriver à vous, là, parce que la petite a des, je dirais pas des ambitions, mais a des attirances d'enfant. Elle aime la danse, elle aime les chevaux, et elle se complaît. Ça n'a pas nécessairement réussi pour elle. Ça ne s'est pas nécessairement réalisé complètement comme elle l'aurait aimé, mais elle se complaît de voir que ses petits-enfants le font. Donc, il y a une sorte de dépossession de sa propre enfance qui est transposée sur sa descendance.
C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est une dépossession, mais la personne qui a découvert le ballet, par exemple, c'était pas dans l'objectif d'en faire une carrière. C'est pas, la danse a toujours fait partie de sa vie, mais. Le fait que sa petite fille, par exemple, aime le ballet aussi et danse, c'est sûr que c'est très réjouissant. C'est vrai, c'est comme le même goût qui se transmet, mais sans que... Elle n'y est pour rien, oui. Au fond.
Bon, ça peut être ce qu'on donne dans notre héritage d'ADN, peut-être, qui se transmet comme ça. Théard de Chardin, ça oui. vous a intéressé comme personne?
Oui.
Ça a été une sorte de consolidation de votre réflexion au niveau de la grande compréhension de la vie?
Oui, ben comme j'en parle, c'est ça. Par exemple, les questionnements, on est les questionnements à la fin des années 60 ou enfin dans ce coin-là, mi-60, les questionnements concernant la religion, la foi et tout ça, ça a fait partie de ma vie. Pendant quelques années, plusieurs années. Et Théard de Chardin, à ce moment-là, c'est vrai, m'a apporté
arrivait avec une sorte de réponse, oui, oui. Qui était oui. Satisfaisante. Quand on lit l'ensemble de l'ouvrage, les parcelles de vie, on s'aperçoit, Louise Goupil, que le Québec, à une certaine époque, vous venez de mentionner les années 60, là, mettons... Je veux dire de
50 aussi.
50, 60. Et avant ça, le Québec était très monolithique dans ses habitudes. Enfin, la vie rurale, la vie urbaine, peut-être qu'ils avaient des différences, mais on se ressemblait beaucoup. Et vous racontez une scène que j'aurais pu écrire, c'est la bénédiction paternelle du jour de l'an.
Oui.
J'ai l'impression... que ça devait se faire dans bien des familles de cette façon-là. Et ce que je retiens, des éléments que je retiens, parce qu'ils étaient très vrais, et chez nous, c'était la seule journée dans l'année où on se donnait le droit de se donner la main et de s'embrasser.
Oui, exactement.
Le reste, là, on pouvait partir pour un mois, revenir trois mois plus tard, puis c'était bonjour, bonjour. Puis,
exactement, oui. Oui.
Et il y avait tout un cérémonial aussi autour de ça, avec de s'agenouiller devant le père qui était mal à l'aise, mais mal à l'aise à chaque fois.
Oui, oui, un peu.
Qui se sentait comme obligé. Et il y avait un peu la poussée de la mère là-dedans, la mère qui organisait, la mère qui organisait cette cérémonie-là, sachant bien que lui n'aimait pas ça.
Oui, ben en fait, je ne sais pas si... je pense pas que mon père n'aimait pas ça. Il était mal à l'aise, c'est sûr. Ouais.
Parce surtout qu'en voyant grandir son monde. Là,
puis... Oui, oui. Mais je pense qu'il y avait quand même une certaine... il aimait quand même ça, mais ça mettait tout le monde mal à l'aise.
Ouais, oui, il y a une certaine part d'émotion aussi qui est là-dedans. Il y a un chapitre vers la fin qui s'intitule « Elle ».
Oui.
Au départ, j'essayais de savoir qui était elle. Est-ce que c'était la mère? Est-ce que c'était la grande sœur? Qui est-ce que c'était? Puis, bon, finalement, j'ai rien trouvé dans cet ordre de choses-là. Et je suis arrivé au terme en me posant la question, le elle, est-ce que c'est la solitude ou l'anxiété?
Ni l'une ni l'autre.
Ni l'une ni l'autre. Alors, éclairez-moi.
Ce texte-là est paru, j'ai participé au marathon d'écriture de Québec en 2017 et le thème c'était une rencontre étonnante et alors j'ai écrit ce texte-là à ce moment-là qui est paru dans le livre ensuite qui a été fait et je ne vais pas vous donner la réponse, je vais vous inviter à le relire.
OK, d'accord. Parce que je vais vous donner une clé d'interprétation. Les clés sont intéressantes dans votre livre. C'est qu'à la fin de notre entrevue, j'ai choisi la chanson de Moustaki, « Ma solitude ».
Ah oui.
Pour avoir souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une habitude. Et je trouvais que ça pouvait correspondre avec ce qui avait précédé de cet enfant qui était solitaire, de cet enfant qui devenait adulte et avait eu besoin toujours de ce côté de solitude. Et que finalement, ça l'avait aidé, ça l'avait ennuyé, ça avait apporté ses bons effets. Donc, vous comprendrez pourquoi c'est Moustaki qui chante « Ma solitude ». Est-ce que, en terminant, Louise Goupil, vous avez eu la précaution, ou c'était une précaution, ou si ce n'était pas important du tout, que vous obteniez l'assentiment de la fratrie avant de publier? Avez-vous non. parlé de ça à vos frères ou à votre sœur?
Non. C'est-à-dire que j'ai...
Risque-t-il de se reconnaître ou de dire « c'est pas vrai, c'est pas comme ça, j'étais pas de même »?
Je savais que c'était possible et aussi je savais qu'il y a des choses qui sont différentes puisque j'ai ajouté, j'ai retranché, j'ai fait des...
Ouais, mais d'habitude, les autres de la famille ne comprennent pas ce boulot.
Mais non, j'ai pas consulté. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai, pour deux récits où elle est plus présente, je l'ai fait lire à ma sœur. Et comme je vous disais tantôt, elle n'a pas les mêmes souvenirs que moi, forcément, nécessairement. Et elle a très bien compris que c'est ma vision, ma... Et en même temps, elle a bien vu à travers le livre les choses qui ont été changées, modifiées, avec des éléments fictifs qui sont apparus.
Oh, vous avez une sœur qui est bien compréhensive. Ça s'intitule « Parcelles de vie », c'est signé Louise Goupil. Il s'est publié chez J.P. Lou dans la collection « Mémoire fictive ». Merci beaucoup de nous avoir entretenu de ces souvenirs, Louise Goupil.
Merci beaucoup à vous de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.